Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdibois. Je suis en compagnie de Caroline Zenati de l'association La Fourmilière qui a trois pôles d'activité, mais je préfère lui laisser la parole. Donc bonjour Caroline.
Bonjour Louis.
Alors commençons droit au but comme d'habitude.
Ok.
On va peut-être parler des activités de ton association.
Alors La Fourmilière, c'est une association d'éducation populaire qui est à Eure aujourd'hui et dans les secteurs d'activité, il y a un pôle séjour. On organise des colonies de vacances pour les enfants de 6 à 16 ans. Il y a un secteur qui est plus tourné autour d'activités artistiques. On accompagne des artistes pédagogues dans leur mise en place d'ateliers pour des adultes ou pour des enfants. Et on est en train de créer un troisième secteur d'activité qui est des interventions en milieu scolaire. Plus particulièrement en collège et lycée dans un premier temps, où on a envie de faire des propositions autour des relations filles-garçons. Pour accompagner un petit peu les ados dans ces questions-là qui sont forcément très présentes chez elles et chez eux, de pouvoir peut-être rendre ça moins compliqué aussi.
D'accord, bon, on va commencer par le premier pôle d'activité, à savoir les séjours de vacances. Est-ce que tu peux en dire quelque chose de particulier? Est-ce que vous différenciez d'autres structures qui proposent ce même type d'activité?
Je pense que oui, on est particulier. En tout cas, il n'y a pas énormément d'associations en France qui fonctionnent comme nous. On a assez peu de séjours et une des raisons pour lesquelles on a peu de séjours, c'est qu'on est très exigeant et exigeante sur la qualité de nos propositions. Et donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour mettre en place un séjour. On choisit notamment les lieux dans lesquels on va. Pour nous, ça fait vraiment partie de la qualité de ce qu'on propose, d'être dans des maisons qui sont agréables, qui permettent d'avoir un accès vers l'extérieur très facilement. Et voilà, il faut savoir que dans chaque maison où on passe avec les enfants, c'est des maisons qu'on a visitées avant. Donc déjà, ça, c'est un gros travail. Une autre particularité, c'est qu'on propose des séjours pour des petits groupes. Il y a maximum 22 enfants. En moyenne, il y en a une vingtaine par séjour. Et il y a 4 à 5 adultes présents en continu sur chaque séjour. Il y en a 4 pour les adolescents et pour les plus jeunes, en dessous de 13 ans, il y a 5 adultes. Ce qui nous permet de pouvoir plus prendre en compte chaque enfant et chaque adolescent qu'on croise pour qu'ils puissent passer des bonnes vacances.
Mais alors, qu'est-ce que tu appelles une grande exigence? Comment ça se manifeste?
Alors, l'exigence, elle se manifeste sur la prise en compte de chaque personne sur son temps de vacances. En fait, selon les enfants, ils n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies, pas les mêmes rythmes. Et on a vraiment envie de pouvoir trouver des fonctionnements qui permettent qu'on soit le moins possible dans la contrainte. Et qu'un enfant qui a besoin de plus dormir, il puisse plus dormir. Un enfant qui a besoin à des moments d'être moins en groupe et plus en petit groupe, de faire en sorte que ce soit possible aussi. L'exigence, elle se situe aussi sur les thématiques et les choix pédagogiques. Donc, en résonance avec tout le travail de préparation et tout le recrutement, le temps de recrutement, on s'assure de travailler avec des personnes qui vont aussi favoriser ça, la prise en compte de chacun au sein d'un groupe. Il y a une exigence qui est portée donc, au niveau du choix du lieu et aussi au niveau de l'alimentation. On fonctionne en gestion directe. Ça veut dire qu'on loue le lieu et qu'après, on s'occupe, nous, de la maison, au niveau du ménage et de la cuisine. Donc ça fait qu'on a complètement une prise sur ce qu'on mange. Donc on est en lien avec des producteurs locaux.
Vous mangez bio ?
Pas que, mais au maximum. Et voilà, depuis l'année dernière, on s'organise de manière à ce que chaque séjour fasse des commandes en amont, ce qui fait qu'on peut faire des commandes groupées et que ça réduit les coûts. Donc ça nous a permis d'être un peu plus en bio. Après, on n'achète pas tout bio, mais... pas mal.
Et alors, donc, quelles autres manifestations de cette exigence, alors?
Il y a aussi une grande importance qui est accordée au choix, où on estime que c'est les vacances des enfants et que c'est pas à nous de décider ce qu'ils vont faire. Nous, on est là pour poser un cadre, ça c'est vraiment nécessaire. Tout n'est pas permis, par exemple, sur les séjours sur lesquels je suis, c'est strictement interdit de réveiller quelqu'un. Ça, c'est une règle qui est non négociable. Après, à partir de toutes ces règles non négociables, il y a un champ des possibles qui est immense et notre travail il va consister à accompagner les enfants pour qu'ils fassent des choix. Moi, je me rends compte, ça fait pas mal de temps que je travaille dans l'animation maintenant et c'est assez régulier que je me rende compte que je suis face à un enfant à qui on n'a jamais réellement proposé de faire un choix. Parce que dans le fonctionnement scolaire, c'est pas forcément possible. Selon l'environnement familial, c'est pas possible non plus.
C'est comme ça.
C'est comme ça. C'est comme ça. Les adultes, ils savent ce qui est bon pour toi. Et en effet, je crois qu'en tant qu'adulte, on est complètement garant de la sécurité physique et affective, donc il y a des choses qui dépendent de nous. Mais après, une fois que ça s'est posé, eh ben, y a une multitude de choses possibles. Alors ben, moi, sur les séjours sur lesquels je suis, par exemple, on a plein de petits jeux et de petites formes de réunions. On fait des réunions avec les enfants pour essayer de les accompagner dans leurs choix et de restimuler ce processus-là. Et c'est pas gagné a priori, quoi. Et après, on le fait même avec les plus jeunes. Voilà, c'est pas limité aux ados de proposer, de choisir. Mais voilà, ça, c'est aussi une petite particularité.
Caroline, est-ce que pour en arriver à ce niveau d'exigence, vous avez réfléchi, je suppose, en amont ? Est-ce que vous avez rédigé une charte éthique ?
Alors, moi, ça fait un an et demi que je travaille à la Fourmilière et on est deux salariés à la Fourmilière. Mon collègue est arrivé en octobre et depuis qu'il est arrivé, on a lancé un travail de fond avec le conseil d'administration pour réécrire le projet éducatif. Parce qu'il y a énormément de valeurs qui sont présentes, mais qui ne sont pas forcément nommées clairement. Et comme pour nous, c'est vraiment une richesse de cette association, on a envie que ça puisse être plus clair et plus lisible. Et du coup, voilà, il y a un travail qui est lancé à partir de ces valeurs-là. C'est une association qui est très ancienne, qui a 28 ans. Et il y a plusieurs personnes du CA qui sont là depuis la création. Et vraiment, cette association, elle est portée par les valeurs aussi des bénévoles qui y sont investis. Et voilà, c'est en cours d'élaboration, de réflexion.
On n'a pas encore parlé concernant ces séjours, de savoir s'ils étaient un peu thématiques ou de quoi s'agit-il. C'est des séjours de vacances, mais est-ce qu'ils ont un thème ?
Oui, chaque séjour a un thème. Alors, je peux décrire un petit peu nos séjours
tout simplement
qui vont avoir lieu. Alors, il y a un séjour pour les enfants de 11 à 13 ans au mois d'avril, du 15 au 21, qui s'appelle « À toi de jouer ». Et donc, c'est un séjour jeu. Le point de départ de ce séjour, c'est suite à un bilan d'un autre séjour de l'été dernier. Avec l'équipe, on se disait « Oh là là, on passe notre temps à jouer en séjour, on aime ça, les enfants aiment ça, et ça génère plein de choses positives dans le groupe ». Et c'est pas quelque chose qui est valorisé, on n'a pas de thématique jeu et on s'est dit allez, on ose, on assume pleinement que le jeu c'est quelque chose de central. Donc c'est un séjour jeu avec comme petit challenge et comme envie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut inventer des jeux tout le temps, à n'importe quel moment de la journée.
C'est vous qui inventez les jeux ?
Il y en a qu'on connaît, mais il y en a qu'on invente aussi. Et c'est comment est-ce qu'on change notre regard pour considérer que tout n'est que jeu ? Et sur ce séjour-là, on va aussi inviter pendant 3 jours un collectif qui s'appelle Togagas, qui travaille autour de la question des discriminations. Et voilà, on avait envie aussi d'inclure ça à ce séjour-là pour proposer aux jeunes d'être accompagnés dans leurs réflexions et dans leurs représentations. On trouve que c'est vraiment quelque chose de très très important là aujourd'hui de pouvoir aborder ces questions-là.
Ça, c'est un stage qui a lieu de ?
Du 15 au 21 avril à Gigor et Lozeron.
Dans un gîte ou dans...
Ouais, dans un gîte qui s'appelle Charousse, que certains et certaines connaissent peut-être. En tout cas, ça fait des années que la Fourmilière fréquente ce lieu. Et c'est un lieu qu'on aime beaucoup.
Et c'est bucolique, c'est citadin ?
Non, c'est rural, complètement rural.
Donc ils ont des prés pour se battre, etc.
Ils ont des prés, de la forêt, il y a des rivières pas loin qu'on peut aller remonter, il y a des très belles balades à faire. Et puis en avril, on espère qu'on pourra déjà manger dehors. Il y a plein d'espaces intérieurs et extérieurs.
Ça, c'est pour celui d'avril. Alors, le suivant se passe quand, alors ?
Le suivant, il commence le 8 juillet, donc la première semaine des vacances. Et c'est pour les tout-petits, c'est pour les 6-8 ans. Ça dure une semaine et ça s'appelle les génies de la forêt. C'est un séjour art et nature où voilà, on sera à nouveau dans cette magnifique maison de Charousse. Et c'est une semaine très adaptée au premier séjour, au premier départ. On sera nombreux dans l'équipe avec des personnes qui sont habituées à travailler avec les jeunes enfants. Et on sera notamment avec une plasticienne qui s'appelle Alice Krischel, qui propose des transformations à partir de ce qui se trouve dans la nature. Et avec ces transformations-là, on va réaliser des choses plastiques, des dessins, des peintures.
Donc les génies de la forêt, c'est structurant dans le sens où vous allez vous intéresser au monde sylvicole ?
Pas en tant que naturaliste. Mais plutôt sur un côté sensible des choses et de prendre le temps de se retrouver dans cet environnement-là et de se l'approprier, de l'apprivoiser. Ensuite, la même semaine, le même jour, il y a un autre séjour qui commence, donc le 8 juillet, qui dure 2 semaines jusqu'au 21 juillet. C'est un séjour qui s'appelle Cirque en vol. C'est pas un stage de cirque, c'est vraiment une colonie de vacances avec cette thématique-là. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières pour venir. C'est pour les 11-13 ans et ces deux semaines-là ensemble vont permettre d'aboutir à un spectacle de fin de séjour qui sera ouvert aux familles, aux amis et aux habitants du village. C'est aussi à Gigor et Lozeron, dans un autre gîte qui s'appelle La Rivière, qui est juste à côté de Charousse, qui est aussi un lieu où on va très très régulièrement.
On peut se baigner dans cette rivière ?
Je crois pas qu'il y ait de rivière. Enfin, il y a un petit ruisseau plus. Je sais pas pourquoi ça s'appelle La Rivière.
C'est pas une rivière ?
Non, c'est le gîte qui s'appelle La Rivière.
Ah, d'accord.
Et ouais, juste peut-être pour signaler que c'est le séjour qui, en général, est complet le plus vite. Du coup, faut pas traîner pour s'inscrire. Mais surtout les séjours, globalement, puisqu'il n'y a que 20 places par séjour.
Et en général, vous n'avez pas de mal à remplir vos séjours ?
Si.
Ah, vous avez du mal à remplir vos séjours ?
Étrangement.
Mais alors, il faut faire plus de pubs ?
Eh ben, c'est ça. C'est pour ça que je suis là.
D'accord.
Ensuite, du 22 juillet au 4 août, un autre séjour qui s'appelle Rue des Arts, pour les plus grands et les plus grandes, les 13-16 ans. C'est un séjour de création semi-itinérante autour des arts de la rue. Donc là, c'est vraiment deux semaines où les animateurs qui seront là vont faire des propositions artistiques pour que le groupe s'empare de ces propositions-là, les transforme à souhait et qu'ils se mettent d'accord sur une petite création qu'ils pourront aller jouer dans les villages alentours. Donc il y a un camp de base qui sera à Francillon-sur-Roubion et après c'est possible d'aller jouer dans tous les villages alentours, sachant qu'ils iront jouer à pied. Donc selon où ils ont envie d'aller, et ben, il faudra peut-être partir deux jours avant pour avoir le temps d'arriver jusqu'au village d'à côté.
C'est pas un camp d'entraînement du type brigade verte ou armée ?
Non, non.
Vous ne les poussez pas jusqu'à leur extrême limite ?
Ah non, pas du tout. On part de leur limite et on s'arrête avant de les avoir atteintes.
Ça n'en reste pas moins sportif quand même ?
Non, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences ni sportives ni artistiques. Et l'idée de ces déplacements à pied, c'est aussi de prendre le temps de se déplacer. Et du coup, bah, selon le groupe et les énergies du groupe, on prendra plus ou moins de temps pour aller d'un point à un autre. Mais il n'y a aucun objectif de performance ou de faire des prouesses.
Ou de dépassement de soi.
Moi, je crois qu'on est dans le dépassement de soi parce qu'on apprend à se connaître au travers de ces séjours-là et notamment au travers des activités artistiques. Donc, on se dépasse aussi quand on se connaît un peu mieux. Mais en tout cas, ça se fait plutôt dans la douceur et l'accompagnement et on laisse le temps dont chacun a besoin. Et le dernier séjour de l'été se passe aussi à Francillon-sur-Roubion, du 29 juillet au 4 août. C'est un séjour qui s'appelle « À quoi tu joues ?». Donc voilà, ça fait écho au séjour « À toi de jouer » des vacances d'avril. Là, c'est pour les 8-10 ans et c'est un séjour jeu et plein air. On sera dans un endroit qui permet de faire plein de balades, d'aller se baigner aussi et de jouer, fabriquer des jeux si on en a envie et de se faire plaisir là-dedans.
Je vois aussi que vous allez fabriquer des cabanes.
En tout cas, il y a des forêts à côté, donc si l'envie est là, c'est complètement possible. Et après, de jouer dans ces cabanes, de s'inviter à goûter dans les cabanes, voire à manger, hein, tout est possible. Et du coup, pour s'inscrire, il y a quelques plaquettes qui se promènent entre crédits. Peut-être que vous tomberez dessus. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous appeler pour qu'on vous en envoie. Et c'est aussi possible d'aller sur le site internet de l'association et donc il y a le descriptif de chaque séjour et on peut aussi télécharger les bulletins d'inscription. Donc après, il suffit de nous les renvoyer.
Sur votre site, alors on va le faire, en général je le fais à la fin mais c'est pas grave, vas-y, dis-nous tout.
Le site, c'est www.assofourmilière.com et le numéro de téléphone, c'est le 04 75 40 69 61. C'est aussi possible de nous rendre visite. Pour l'instant, on est à Eure, mais à partir du mois de mai, on sera à Saillant. Donc pour les Diwa et les Diwaz, c'est plus près.
Caroline, ça c'était le premier pôle d'activité qui a l'air bien rempli déjà. Souhaites-tu parler de votre deuxième pôle d'activité ?
Oui, donc le deuxième pôle d'activité, c'est l'accompagnement d'artistes pédagogues. Donc c'est pareil, c'est un secteur qui est très ouvert, donc vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé. On accompagne donc des artistes pédagogues qui proposent des ateliers artistiques, ça peut être en danse, musique, théâtre, pour des adultes ou pour des enfants, ça dépend vraiment de chaque intervenant. Et il y a un petit peu deux niveaux à cet accompagnement-là, il y a un accompagnement administratif, où nous on peut salarier les personnes, leur faire des contrats, des fiches de paye. Donc, pour les personnes qui ont différents ateliers dans différentes structures, ça permet de tout centraliser. Et notre envie aussi avec ce secteur-là, c'est de pouvoir créer un lien et un réseau entre les intervenants, où on trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espace pour se parler, pour se raconter quelles sont nos réalités de travail, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on peut soutenir, comment on peut aussi se passer le relais sur certaines demandes qu'on nous fait, qu'on ne peut pas assumer. Du coup, voilà, très bientôt, on réunit tous les intervenants artistiques de la Fourmilière pour essayer de voir un peu quelles pourraient être les envies de projets un peu plus collectifs.
Voire même un espèce de fichier central d'intervenants pour éventuellement, si on cherche un intervenant dans stock, bah, y a un tel.
Oui, ça arrive, c'est ça là, l'invitation à nous contacter, elle concerne à la fois les artistes et à la fois les personnes qui peuvent avoir envie de rencontrer des artistes ou de les inviter dans leur structure. Parce qu'on est parfois sollicité, il y a des gens qui nous appellent en nous disant « Voilà, on a un projet, on cherche un animateur théâtre, est-ce que vous en avez un que vous nous conseillez ?» Voilà.
Et alors, vous en suivez combien dans cette activité ?
Actuellement, je pense qu'il y a une dizaine, douzaine de personnes différentes.
C'est un nombre qui est stable ou qui augmente ?
En ce moment, ça augmente. Il y a quelques personnes qui nous ont contactés. Il y a peut-être eu des périodes où il y en avait plus, d'autres moins. C'est assez fluctuant. Et puis, il y a des personnes qui ont des ateliers à l'année. Il y a des personnes qui viennent nous voir, qui veulent juste faire une intervention à un moment. C'est vraiment assez variable.
Parce que vous les utilisez pour vos propres besoins dans vos séjours ?
Ça peut arriver. C'est pas sur tous les séjours, mais ça peut complètement arriver, oui.
Caroline, tu souhaiterais passer un morceau en particulier pour agrémenter ton émission ?
Oui, j'avais bien envie de vous proposer d'écouter une chanson d'un groupe qui s'appelle Zut, que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup faire écouter aux enfants. L'album, ça s'appelle Mon œil et la chanson s'appelle 3 minutes. Je pense qu'on jouera avec cette chanson au séjour jeu.
Attention, c'est parti !
On peut y aller.
Vous écoutez toujours RDIWA sur 107.5 FM et nous sommes avec Caroline Zenati qui nous présente les activités de l'association dans laquelle elle travaille, La Fourmilière, et nous en étions au troisième pôle d'activité qui est en développement, qui n'a pas encore démarré si je ne m'abuse.
C'est ça, c'est vraiment le démarrage, le lancement du projet. C'est autour d'interventions en milieu scolaire sur les relations filles-garçons. Donc là, on a commencé à prendre contact avec différents établissements et ça va se poursuivre la mise en place pour, on espère, démarrer à partir de la rentrée prochaine scolaire, de septembre. Et notre envie, c'est d'intervenir, bon, tout est envisageable, mais la proposition de base, c'est de venir 6 fois dans une classe sur des séances de 2 heures et de trouver différentes formes de débats, de discussions et de jeux pour permettre aux jeunes de pouvoir avancer sur où ils en sont par rapport à toutes les questions liées à l'adolescence, au corps qui change, à l'amour, à la sexualité. Comment est-ce qu'on peut accompagner ça? Parce que de notre expérience, on se rend compte que c'est pas forcément un passage très évident, que c'est pas des questions qu'on a forcément envie d'aborder avec ses parents ou avec ses profs et qu'on trouve que c'est pas mal de pouvoir rencontrer d'autres adultes dans des espaces qui sont sans tabou ni jugement. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
Alors vous avez des pistes pour exploiter ce projet? C'est facile de pénétrer l'éducation nationale?
Eh bien c'est notre travail du moment. Alors on a eu un premier contact avec une enseignante du lycée de Die. Et là, ça nous paraît pas très compliqué de rentrer en relation. Elle va nous mettre en relation avec la CPE et avec des enseignantes qui sont intéressées par ce projet-là. Après, on n'a pas encore de retour d'autres établissements. Du coup, on va re-essayer de prendre contact, mais pour l'instant, on ne sait pas trop.
Et l'objectif, c'est que vos interventions soient quand même un petit peu financées?
Oui, complètement. Donc, c'est pour ça qu'on s'y prend tôt, pour que les établissements puissent aussi avoir des financements pour ça. Alors, je sais que ça se fait dans d'autres villes et qu'il y a des financements possibles. Il faudra qu'on cherche aussi avec les chefs d'établissement s'il y a besoin. Et là, on est aussi en contact avec le ministère de la Cohésion sociale, anciennement Jeunesse et Sport, qui a un pôle autour de l'inégalité homme-femme et qui pourrait peut-être aussi financer une partie de ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment en construction, la question des financements.
Si je me rappelle bien, tu as dit qu'il y avait 2 salariés au sein de la fourmilière.
Oui.
Est-ce qu'on peut un peu parler du fonctionnement de la fourmilière? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des particularités, encore une fois, de votre fonctionnement?
Eh bien, à la fourmilière, donc, on est deux salariés. On se partage un plein temps. Moi, je travaille 20 heures par semaine et mon collègue travaille 15 heures par semaine. Ça me paraît important de continuer à être deux. Il pourrait y avoir qu'une personne à plein temps, mais c'est aussi très riche de pouvoir alimenter toutes les réflexions et les prises de décision en étant deux. On a choisi là, à partir d'octobre, d'être en co-direction. Et on est très très en lien avec le conseil d'administration. On se voit une fois par mois où tout le monde se réunit, mais dans un mois qui s'écoule, on voit certaines personnes en individuel ou par téléphone. Donc c'est vraiment aussi une chouette vie associative. Et c'est une association, moi je sens un support du conseil d'administration très, très fort.
Ce conseil d'administration qui est composé de combien de membres?
Une dizaine.
Une dizaine de membres est stable, enfin, parce que tu as dit tout à l'heure que la fourmilière avait 28 ans.
Oui.
Il y a une stabilité du conseil d'administration, des gens qui sont impliqués depuis un bout de temps et qui connaissent un peu le fonctionnement de la structure.
Oui, il y a des gens qui sont là depuis le début. Il y a des gens qui sont là depuis assez longtemps et tout le monde n'a pas connu la fourmilière de la même manière. Il y en a qui ont travaillé à la fourmilière, il y en a qui ont inscrit leurs enfants à des séjours. Et moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'une fois qu'on a mis le pied dans la fourmilière, on a envie d'y rester, où il y a beaucoup d'anciennes salariées qui sont maintenant membres du conseil d'administration et qui ont envie de continuer à permettre à cette association d'exister.
Comment financez-vous ces 2 salaires et puis les autres frais de structure aussi?
Et ben, la fourmilière est une association qui est principalement autofinancée, ce qui peut être un peu limitant parfois. On a une subvention de fonctionnement, on a un poste FONJEP. Ça, c'est une aide annuelle pour financer une petite partie de nos salaires. Et c'est une aide qui est allouée à des associations d'éducation populaire. Donc pour nous, ça a été vraiment très agréable de pouvoir bénéficier de ce financement-là, parce que c'est aussi une reconnaissance de notre travail. Après, on a parfois des subventions ponctuelles sur des projets de la part de Jeunesse et Sport ou de la région. Voilà.
Et vous faites ce qu'on appelle la chasse aux subventions, non ?
Eh ben, on essaye de trouver un équilibre où on ne veut pas passer trop de temps à ça parce que ce n'est pas ce qui nous passionne le plus. On a plutôt envie de mettre notre énergie à construire des choses plus concrètes. Après, on est dans une stratégie de veille où on essaye de régulièrement faire un peu le tour des offres. Et quand il y a un appel d'offres, on va décider de le saisir si jamais ça fait vraiment écho à ce qu'on fait. Mais on ne fait pas la course aux subventions.
Caroline, tu as dit tout à l'heure que vous alliez bouger de Deurs à Saillant.
Oui.
Pourquoi faire ? Ça correspond à un besoin ?
Alors, ça correspond à une envie d'avoir un bureau plus grand. Et en fait, on a eu accès à une salle dans un bâtiment qui s'appelle le Temple, qui a été complètement rénové assez récemment. Et en fait, on a un grand bureau qui sera au-dessus d'une salle de spectacle. Et on aura accès quelques week-ends par an à cette salle de spectacle. Du coup, nous, ça nous faisait très envie pour pouvoir être un peu plus visible sur le territoire et pouvoir faire des choses de manière plus régulière. Et aussi d'avoir un bureau où on peut recevoir des gens, parce que là, on a un tout petit bureau.
Mais est-ce que ça ne va pas vous couper de vos racines ? Parce que je ne sais pas si la fourmilière qui possède ses racines à heurts depuis un petit bout de temps, est-ce qu'elle ne va pas justement perdre sa zone d'achalandise peut-être ?
Non, nous, on a l'impression qu'on s'est posé cette question. Et en fait, la fourmilière, elle a été à Cré, à Heurs, elle a été dans ce secteur-là depuis toutes ces années. Et en tout cas, les gens avec qui on travaille, ils sont vraiment dans toute la vallée de la Drôme et qu'on reste quand même à un endroit assez central. On s'éloigne un petit peu de Cré, mais on se rapproche de Die. Du coup, l'un dans l'autre, on pense que les gens vont continuer à s'y retrouver et qu'on va rester identifié à ce même territoire.
Parce que les enfants qui participent à vos séjours, globalement, viennent de la vallée de la Drôme ?
Globalement, oui. Après, on a aussi des enfants de Lyon, Marseille. Il y a même une fille qui vient tous les ans de Bruxelles.
Comment elle a fait pour vous découvrir ?
Je ne sais pas. Ce serait une bonne question à lui poser.
Parce que vous avez des enfants qui viennent régulièrement, d'année en année.
Oui. Il y a un peu ce phénomène-là, la fourmilière, où les enfants qui sont venus ont tendance à revenir.
Très bien, Caroline. Bah, écoute, merci d'être passée à Erdiwa pour parler de ton association La Fourmilière. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, au revoir.